84e numéro de Wagon Livre, ce soir sur Radion, un mois après la rentrée scolaire, nous allons nous pencher sur l'enseignement des langues et surtout ce soir de l'enseignement de l'anglais, puisque nous sommes en compagnie d'un professeur certifié d'anglais. Il enseigne au collège Giroud de Villette à Clamecy, dans la Nièvre voisine. Gérald Leroy, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'être devant le micro de l'émission littéraire de Radion. Je n'ai donné que des éléments professionnel, vous concernant, que devrais-je dire, passionné de grammaire anglaise, mais hormis l'anglais et l'écoute très régulière, voire quotidienne de la BBC, qu'est-ce que vous aimez particulièrement? La lecture, la peinture, la musique, l'art, le sport?
Disons que j'aime un peu tout, finalement j'aime beaucoup l'histoire des sciences, donc je lis des ouvrages sur les grands scientifiques du passé. C'est vrai que mon principal loisir, c'est essentiellement la lecture et bien entendu l'étude de l'anglais, surtout de la grammaire anglaise, puisque je collectionne les grammaires depuis le XVIIe siècle. J'en possède 72 dans ma bibliothèque. D'ailleurs, je viens de m'en procurer une là, récemment sur une brocante. Donc voilà, j'épluche les grammaires et je suis passionné par l'étude de la langue anglaise depuis le XVIIe siècle.
Alors c'est d'ailleurs bien à ce titre, non pas en tant que grammairien, mais en tant que professeur d'anglais, que nous vous recevons et on vous accueille pour une méthode d'apprentissage de l'anglais et quelque part aussi de consolidation de son niveau d'anglais, une méthode que vous avez mise au point et qui a pour titre « Le tour de l'anglais en 365 jours », sous-titré « 7 années d'études en un seul livre, de la 6e à la terminale », et qui n'est pour l'instant diffusé que dans le département de la Nièvre. On attend peut-être que l'émission de ce soir va amplifier un mouvement très encourageant au niveau des ventes de votre méthode, donc « Le tour de l'anglais en 365 jours ». 500 exemplaires vendus en 3 mois,
oui.
C'est un beau départ. Alors, il faut dire que votre méthode est essentiellement disponible, pour l'instant quand même, dans des grandes surfaces dont nous ne pouvons pas donner forcément les noms.
Oui.
Mais, une librairie de Clamecy le met très largement en valeur, c'est la librairie du Beuvron.
Oui, c'est ça.
Alors, pourquoi ce choix de la diffusion en grande surface?
Ben disons que si vous voulez, dans un premier temps, ayant publié le livre à mon compte, je ne suis pas passé par une maison d'édition, donc ce qui rend bien entendu la diffusion difficile, dans la mesure où c'est moi qui dois démarcher auprès des libraires, auprès des grandes surfaces. Mais il y a eu déjà un article dans le journal du Centre, et cet article a mis le feu aux poudres. C'est un article assez succinct, qui présente la méthode et qui présente les travaux, que je fais depuis quelques années. Et donc, suite à cet article, j'ai eu énormément de commandes de ce livre, puisque je constate que les gens sont à la recherche de méthodes classiques, de méthodes qui soient claires, simples dans leur facture, et qui permettent aux élèves de progresser rapidement en anglais.
Alors, pourquoi ne pas avoir, par exemple, proposé cette méthode d'anglais d'apprentissage, de révision, pourquoi ne pas l'avoir proposé à une maison d'édition scolaire, Belin, Magnard, Ellipse, Ofris ou autre?
Ben disons que je...
Pourquoi ce choix de l'auto-édition plutôt que la voie, je ne sais pas si elle est royale d'ailleurs, hein, parce que auto-édition n'est pas synonyme de travaux moindres, mais pourquoi ne pas avoir proposé cela à une maison d'édition?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première étant que je désire rester un homme libre. Un homme libre, c'est-à-dire d'exprimer tout ce que je désire exprimer, et notamment une critique sur la pédagogie moderne.
Alors, on y reviendra, hein. Bien sûr, on en parlera.
Voilà, donc, je ne suis pas d'accord avec certaines positions qui sont prises par les grammairiens modernes.
C'est-à-dire, en fait, que vous nous dites que, que les maisons d'édition scolaire sont forcément très encadrés par des enseignants qui je dirais, impose et surveille les dogmes imposés par les instructions officielles de l'enseignement de l'anglais dans l'éducation nationale.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des positions grammaticales qui sont prises, qui me dérangent fortement. Je vais vous en citer une très claire, très simple. C'est que maintenant, on enseigne aux élèves que pour mettre un verbe à l'infinitif en anglais, on n'a plus besoin de mettre la particule « to » devant. Pour moi, c'est une erreur. Parce que quand on s'adresse à un anglais, si on met une expression à l'infinitif, si je dis par exemple « to draw a picture », qui veut dire « faire un dessin », si j'enlève le to, et que je prononce cette phrase devant un anglais, si je dis draw a picture, il va comprendre cette phrase à l'impératif. Et si on se fonde quand même sur l'évolution de la langue anglaise, on s'aperçoit que ce to est indispensable, puisqu'il a été intégré à un moment donné de la langue, quand la langue était en formation. On sait par exemple que certains substantifs sont exactement les mêmes que les noms communs. Par exemple, le mot love. Love qui veut dire l'amour, mais qui veut dire aimer. Et justement, pour distinguer le substantif du verbe, on a placé cette particule « to » devant le verbe pour bien montrer qu'il s'agissait d'un verbe. Et en plus, nous avons dans la langue anglaise l'influence du gothique, puisque l'anglais vient en grande partie de la langue germanique. Et au 19e siècle, pardon, il y avait un linguiste et politicien très connu à l'époque qui s'appelait Hontook, et qui a fait des travaux extrêmement intéressants dans un livre qui s'appelle « Divisions of Purley », dans lequel il montre que l'étymologie du « tout », il l'explique très clairement, et qui est en rapport d'ailleurs avec le « zu » en allemand, « zu lernen » qui veut dire « apprendre hein », et donc on a besoin de cette particule de l'infinitif. Et moi, je ne suis absolument pas d'accord pour enseigner cela aux élèves. Voilà.
Oui, mais alors on peut imaginer, par exemple, que vous n'êtes tout de même pas seul à contester le fait que aujourd'hui les instructions officielles de l'enseignement de l'anglais demandent aux professeurs d'anglais d'apprendre l'infinitif sans tout. Vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres professeurs d'anglais qui, comme vous, désapprouvent le fait qu'on apprenne que l'infinitif du verbe anglais c'est sans cette fameuse particule tout. Maintenant,
tout fait,
alors
tout
que
fait.
Moi-même, j'y apprends. C'est vrai, je me souviens. Il y a plus de 25 ans, j'ai appris au collège que l'infinitif d'un verbe, c'était tout plus base verbale.
Oui, et en plus, en anglais, on sait très bien quand même que nous avons des expressions qui nécessitent l'utilisation d'un infinitif complet, c'est-à-dire avec tout, et d'autres expressions qui nécessitent un infinitif incomplet sans tout. Exemple, you'd better take the bus this afternoon. Tu ferais mieux de prendre le bus cet après-midi. Donc on sait qu'après l'expression you'd better, on va mettre un infinitif sans tout. Et avec d'autres expressions,
oui, mais
on va mettre un infinitif avec tout.
Voilà. Gérald Deleroy, reconnaissez que apprendre l'infinitif avec tout ou sans tout, c'est pas fondamental quand même, à la limite. Qu'est-ce qui vous interdit dans votre classe d'apprendre l'infinitif d'un verbe en anglais avec tout?
Alors,
puisque les méthodes d'enseignement et les grammaires évoluent, semble-t-il, au gré peut-être des caprices des bureaucrates dans les ministères ou des grammairiens qui réussissent à constituer des groupes de pression dans l'éducation nationale ou auprès des éditeurs aussi. Mm-hmm. Donc qu'est-ce qui vous interdit d'apprendre à vos élèves de 6e, puisque cette année vous avez dans votre collège 3 élèves de 6e, 3 classes pardon, de 6e et 2 classes de 3e, qu'est-ce qui vous interdit d'apprendre que l'infinitif c'est tout plus base verbale? Rien en l'occurrence. Qu'est-ce que vous... Enfin, franchement...
Personnellement, je l'enseigne, mais je n'enseignerai pas l'inverse. C'est-à-dire, je n'enseigne pas base verbale. Parce que pour moi, c'est très incomplet. Étant donné que je viens de vous expliquer qu'il y a des expressions qui nécessitent le tout et d'autres qui ne le nécessitent pas. Donc finalement, je me dois d'être le plus clair possible et surtout de ne pas enseigner des erreurs.
Alors on va se retrouver dans quelques minutes pour vraiment voir avec vous dans quelle mesure votre méthode d'anglais est novatrice, nouvelle, se positionnant peut-être un petit peu à l'écart ou dans un chemin différent de celui que l'on essaie d'inculquer aux élèves, parce que ça ne doit pas toujours être très facile. On se retrouve dans une poignée de minutes avec donc notre invité Gérald Deleroy. Je voudrais aussi d'ailleurs rappeler que ce soir, nous enregistrons cette émission à l'hôtel à Vallon-Vauban qui nous reçoit et nous remercions chaleureusement monsieur et madame Barbe pour leur accueil. On se retrouve donc avec notre invité, professeur d'anglais, pour sa méthode d'apprentissage de l'anglais en 365 jours. On écoute une pause musicale. Alors j'ai choisi des titres en anglais, Gérald Leroy. C'est pour ça que je frémis à l'idée d'en donner le titre en anglais devant vous. C'est un groupe qui a plus de 30 ans d'existence, c'est les fameux Tears for Fears, et leur titre bien connu, ce sera Everybody Wants to Rule the World. A tout de suite avec Gérald Leroy.
Au cœur de la Bourgogne.
Les Tears for Fears à l'instant sur votre radio locale. Alors un bain linguistique à bord de Wagon Livre avec notre invité Gérald Leroy, professeur d'anglais et auteur du Tour de l'anglais en 365 jours, méthode d'apprentissage de la langue de Shakespeare. Gérald Leroy, donc cette méthode d'apprentissage que vous avez fait paraître en auto-édition, révèle quelques citations qui sont puisées dans l'Évangile selon saint Matthieu, par exemple. Dans vos remerciements, vous citez l'Ecclésiaste, et puis vous parlez du sage précepte de Salomon. Vous êtes très attaché justement au texte sacré, à un certain attachement au classicisme. Est-ce qu'on peut dire que finalement votre démarche de l'apprentissage de l'anglais est une sorte de retour en arrière par rapport à des méthodes d'enseignement modernes où on a voulu tout transformer et qui finalement ne s'avère pas si efficace que cela?
Oui, je crois que vous avez parfaitement raison, vous avez bien compris ma pensée. Je crois que je suis très favorable aux méthodes d'enseignement classiques, c'est-à-dire des méthodes qui ont fait leurs preuves, des méthodes qui étaient solides, qui étaient extrêmement claires. Et finalement, ma méthode est un mélange des méthodes classiques et d'anglais moderne, et des méthodes modernes, finalement. Donc je pense que on ne peut pas rester, si vous voulez, figé dans le passé. Le grand reproche que je ferais aux méthodes actuelles, c'est qu'elles font table rase de tout ce que les grammairiens du passé ou les pédagogues du passé ont produit.
Et ça, le cœur pour vous de la réussite de l'apprentissage de l'anglais consisterait à avoir déjà d'excellentissimes connaissances de la grammaire dans sa propre langue maternelle, déjà.
Exactement, oui.
Ce qui semblerait, à l'heure actuelle, que la grammaire... on n'accable pas les enseignants de français, mais le nombre d'heures dont les professeurs de français peuvent faire profiter leurs élèves est assez réduit. De combien d'heures d'anglais bénéficient vos élèves en sixième?
4 heures.
4 heures par semaine. 4 heures hebdomadaires. Et le français, c'est le même nombre d'heures?
Je crois que c'est 4h30.
Donc on n'enseigne plus la grammaire, l'orthographe, on essaie si on le peut.
Disons que c'est très succinct, très sommaire.
Est-ce que vos petits sixièmes, par exemple, connaissent les différentes classes grammaticales?
Non,
est-ce
je suis
obligé... la différence entre un adjectif, un adverbe, un auxiliaire?
Non, la plupart du temps, je suis obligé de refaire une explication en français sur un point de grammaire avant de la présenter en anglais. Je m'aperçois quand même que les élèves ont des lacunes. Et pour rebondir un peu sur ce que vous dites, il y a un grammairien très connu du XVIIIe siècle qui s'appelait William Cobbett. C'était un philosophe et grammairien. Il a écrit plusieurs grammaires anglaises, notamment une grammaire très intéressante qui est présentée sous forme épistolaire. Et dans cette introduction, il dit une chose très intéressante, puisque c'est une grammaire qui présente, je crois, 24 lettres qui sont écrites à son neveu. Et dans les conseils qu'il lui donne, il lui dit « Tu ne pourras pas étudier la langue, tu ne pourras pas faire de progrès si tu ne connais pas parfaitement les 9 parties du discours. » Alors, je ne vais pas les répéter ici, mais il y a le nom, l'article, l'adjectif. Donc, savoir déjà à quel genre de mots on a affaire. Et ça, je pense, c'est un conseil d'une grande valeur qui nous vient d'un grammairien du XVIIIe siècle. Alors, j'ai aussi pris des citations de l'Évangile parce que je la trouve très belle, cette citation, finalement, où il est dit que le Christ n'enseignait pas comme les scribes. Les scribes étaient à l'époque des gens extrêmement intelligents et qui véhiculaient le savoir de l'époque. Et pourtant, bien que s'inspirant de toute la Torah juive, le Christ a apporté, à mon avis, une pédagogie complètement nouvelle. Et moi, ce qui m'intéresse, je suis un grand lecteur des Évangiles, j'étudie également la théologie, et je m'aperçois qu'il y a des principes qui sont énoncés de grande valeur. Exemple, je peux vous citer encore un... Je crois que c'est dans l'Évangile de Matthieu. Un verset qui est assez énigmatique, d'ailleurs. Chapitre 13, me semble-t-il. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que veut dire ce passage? Finalement, je trouve qu'il est clair. Ça veut dire que on doit, à mon avis, pour bien maîtriser sa matière, on doit imbiber, finalement, le savoir des anciens et ensuite apporter un souffle nouveau, justement, à sa matière. Et pour exemple, je pourrais vous citer la période de la Renaissance. On a redécouvert les textes classiques. Alors, les textes de la Bible, les textes...
Latin et grec.
Latin et grec, tout à fait. Et ensuite, on a apporté...
L'hébreu aussi.
Voilà, voilà. Et on a apporté ensuite un souffle nouveau, des connaissances nouvelles. Et on a révolutionné le monde des connaissances.
Mais
je pense...
Gérald de Leroy, là, on est quand même, bien sûr, dans une période florissante, littéraire. Aujourd'hui, le souffle littéraire s'est un petit peu envolé. Et on est dans le tout technologique. Alors maintenant aussi, c'est tout juste si on ne va pas donner des livres électroniques aux élèves, ça devient aussi un peu tarte à la crème. Les ordinateurs, le livre électronique, l'agenda électronique. On a fait des choix de séduction au lieu de faire des choix quand même très efficaces. Et il semblerait que les erreurs s'accumulent pendant des années et qu'on va avoir des mal appris, des je ne sais plus quelles ont été les différentes expressions. Mais on a des élèves quand même de plus en plus ignorants de leur propre langue. Or, finalement, quand même, ne pas maîtriser la structure de sa propre langue, y compris son vocabulaire, c'est aussi être ignorant et incapable de comprendre comment fonctionne sa langue et le monde autour de soi. Mmh. Albert Camus disait qu'effectivement, ne pas savoir nommer précisément les choses, c'était ajouter du désordre au monde. Et j'imagine que même dans leur propre langue maternelle, vos petits sixièmes ont peut-être déjà du mal à s'exprimer clairement. Vous citez Boileau, on en avait parlé ensemble, le fameux « ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément hein. ». L'art poétique, bon, c'est 1674, mais revenir à ces classiques s'avérerait quand même indispensable.
Tout à fait. Moi, je crois qu'il y a une sagesse dans les textes anciens qu'on ne trouve plus à l'heure actuelle. Et finalement, comme je vous l'ai dit, je crois qu'il faut faire la jonction entre cette sagesse et l'anglais moderne. On ne peut pas non plus s'exprimer en anglais comme on s'exprimait au XVIIe, au XVIIIe, ou même au début du XXe siècle. Ça, c'est absolument hors de question. Mais d'un autre côté, il y a quand même des principes de pédagogie qui sont extrêmement clairs, notamment, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a la valeur travail est en train de disparaître. C'est-à-dire qu'à travers l'influence qu'on subit avec les portables, les téléphones portables, avec tout cet audiovisuel, finalement, l'écrit est négligé. Et la notion de travail, on commence à la perdre au bénéfice d'un enseignement ludique. Et personnellement, je ne suis pas d'accord. Je crois que c'est à travers le travail que l'homme s'accomplit, finalement. Vous connaissez la fameuse devise de Pasteur, il faut travailler. Pasteur, c'est quelqu'un qui s'est tué au travail. Et je crois que c'est très édifiant, finalement, de lire les biographies de ces grands hommes, parce qu'on peut, même du point de vue pédagogique, en retirer de très belles choses. Vous savez, un jour, on interrogeait Jean-Sébastien Bach, et on lui demandait comment il avait pu arriver à une telle beauté dans ses cantates, etc. Et Jean-Sébastien Bach a répondu, mais monsieur Bach, vous êtes un génie, c'est extraordinaire la manière dont vous pouvez composer ces cantates. Et lui, il a dit, vous savez, il y a 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Et ça, c'est une devise d'ailleurs qui a été reprise par Thomas Edison.
Mais le gros problème, il est là, c'est que le goût du travail et le goût de l'effort s'est perdu.
Exactement, oui.
Pour la grande majorité des élèves, la paresse l'emporte.
Ou la facilité. Oui. La facilité. Il est plus facile de passer des heures devant une console, de passer des heures devant la télévision, que de faire un effort intellectuel. Et si vous voulez, je crois que c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'avoir souligné. Liliane Lursa, dans ses livres sur la destruction justement de l'école de Jules Ferry, a souligné ce problème en disant que justement le facteur de destruction qu'on ne mentionne jamais, c'est quand même bien l'influence grandissante de la télévision et de tous ces médias. Alors je ne suis pas, si vous voulez, contre à 100% dans la mesure où on peut utiliser ces choses, elles peuvent être bien utilisées, mais encore faut-il les cadrer et il ne faut pas qu'elles deviennent omniprésentes.
On marque une nouvelle pause au cours de notre émission. Je rappelle que nous évoquons ce soir le tour de l'anglais en 365 jours, un ouvrage, une méthode d'apprentissage de l'anglais mise au point par notre invité Gérald Leroy, professeur d'anglais au collège de Clamcy. Nous le retrouvons après un nouvel intermède musical. Voici, pour votre plaisir, extrait de l'album Let Them Talk de Hugh Laurie, After You've Gone. Alors à tout de suite et bonne soirée à bord de Wagon Libre.
John Henry had a little woman, and the dress she wore was red. She walked down the track, she never looked back. I'm going where John Henry fell dead. I'm going where John Henry fell dead. John Henry had another woman, and her name was Polly Ann. John Henry was taken sick, and he had to go to bed. Polly Ann drove steel like a man. Polly Ann drove steel like a man. John Henry told his little woman, honey fix my supper soon. I got 99 miles of track I wanna line back. I'm gonna line them by the light of the moon. I'm gonna line them by the light of the moon. Before I die, give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die.
J'espère, Gérald Leroy, que mon anglais est assez convenable. Parce que quand on est animateur dans une émission littéraire, j'espère que mon anglais est-il à peu près honorable ?
À peu près.
À peu près, hein ? Perfectible en tout cas. Avant de retrouver notre invité, je vous invite à prendre vos agendas et à noter que mercredi prochain, 10 octobre, nous nous entretiendrons avec Gérard Calmette pour un livre paru aux éditions de l'Armançon et qui a pour titre « Gionomadie ». Ce sera une excellente occasion d'évoquer un romancier de la nature et de la paix, Jean Giono, et de porter, si besoin, un coup de projecteur sur les romans de cet écrivain disparu en 1970. C'est mercredi prochain avec Gérard Calmette. Mais ce soir, nous parlons enseignement de l'anglais, goût de l'effort et méthode d'apprentissage avec Gérald Leroy autour donc de cette méthode d'anglais qui a pour titre « Tour de l'anglais en 365 jours ». Alors, expliquer la grammaire, c'est aussi la base de votre méthode, parce que pour vous, finalement, vous dites que l'enseignement de l'anglais est beaucoup trop déstructuré, les élèves n'apprennent que des mots comme ça. Or, pour vous, il est important que les mots soient, disons, rassembler pour former du sens, et pour vous l'important c'est quand même la phrase.
Tout à fait. Pour moi l'important c'est quand même la structure, et si vous voulez, ce que je reproche justement aux méthodes directes, c'est que on fait croire finalement à un certain bain de langue, on fait croire que en baignant dans la langue on va pouvoir spontanément penser en anglais, et ça personnellement moi je pense que c'est une erreur. On s'aperçoit d'ailleurs, et là je vous parle d'expérience, ça fait quand même 25 ans que j'enseigne, on s'aperçoit que quand on parle, surtout en collège, essentiellement en anglais de la première minute du cours jusqu'à la dernière, on s'aperçoit que les élèves vous regardent, tout est bobby, ils ne comprennent pas. Et systématiquement, vous aurez des élèves qui vont vous demander « Mais monsieur, qu'est-ce que ça veut dire ?»
Donc le bain linguistique, ce n'est absolument pas efficace.
Ben, c'est efficace si, dans le sens où si je vais vivre en Angleterre, là je vais pouvoir parler d'un bain linguistique, puisque là je vais être en permanence confronté à la langue anglaise.
Mais en classe, on est noyé. Plus un bain, c'est une noyade linguistique.
Alors. Je ne sais pas, mais en tout cas, 3 heures d'anglais par semaine, 3 ou 4 heures d'anglais par semaine, moi je n'appelle pas ça un bain linguistique.
Alors en fin de compte, actuellement, ce que préconisent les instructions officielles de l'enseignement de l'anglais, c'est qu'on vous demande de ne pas trop traduire. Il faudrait que les élèves puissent deviner ce que vous dites.
Exactement. Ah bon. Donc, on comprend finalement de manière assez floue.
Mais est-ce qu'on on ne fait pas trop confiance à l'intelligence de nos chères têtes blondes? Est-ce qu'on ne les surestime pas un peu trop? Ah, la question semble un peu vous gêner.
Oui.
Le fait que l'on demande à un professeur d'anglais de ne pas traduire, cela peut paraître un peu embêtant, parce que finalement, l'apprentissage d'une langue étrangère, elle est étrangère par rapport à sa propre langue. Elle ne le devient plus quand on est capable de la traduire dans sa propre langue. Donc, comment se fait-il qu'on vous encourage à ne pas trop traduire?
Ben, je crois que là, c'est tout simplement...
Quel est l'argument des inspecteurs?
Ben, disons que c'est un dogme qui est imposé. Il y a des points qu'on est absolument obligé de traduire. En anglais, par exemple, « for » veut dire « depuis » ou bien « pendant ». Et selon le temps qu'on utilise dans la phrase, « for » va dire « pendant », vouloir dire « pendant » ou bien « depuis ». Donc là, je ne vois pas comment on peut, sans passer par l'explication grammaticale, faire comprendre ça aux élèves. Et il y a une différence qui est tout à fait notoire dans ce domaine-là. Mais moi, je pense que la traduction, d'ailleurs, l'élève est demandeur, il demande à comprendre. Et l'avantage de la traduction, c'est justement de donner un mot précis et de savoir exactement le sens d'un verbe. Parce que, justement, le but, c'est de parler, soi-disant, d'après les instructions, de parler constamment en anglais. Mais on voit, depuis 25 ans que j'enseigne, je vois que les élèves ne savent finalement ni parler, ni écrire. Donc, moi, je juge là...
En français ?
En anglais.
En anglais, oui. Ni parler, ni écrire, voilà. En anglais, alors, y compris même en terminale.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire que nos bacheliers ont un niveau d'anglais qui est quand même assez bas.
Moi, j'ai enseigné, j'étais correcteur au bac. J'ai corrigé, je me souviens très bien, un paquet de 70 copies en respectant le barème, qui était déjà assez large.
Récemment ?
Non, il y a à peu près une dizaine d'années. Donc en fait, j'avais mis la moyenne à 10 élèves, et encore sur les 10 élèves, il y avait 5 copies à 10 sur 20. Mais l'anglais était vraiment illisible.
Mais alors, puisque nous parlons de notation, Gérard Delleroy, justement, à l'heure actuelle, et on l'a vu au mois de septembre, il y a eu des affaires de violence de parents sur des enseignants. Ces petits chéris, on n'ose plus les enseignants, certains enseignants commencent à ne plus trop oser faire la discipline dans leur classe. Est-ce que la note ne pose pas un problème, justement, dans une période de grave crise où tout le monde est anxieux, le fait d'avoir des mauvaises notes à l'école serait synonyme d'échec scolaire? Est-ce que la note ne met pas un peu trop de pression à la fois aux familles, aux élèves et aux enseignants? Et je ne parle pas de l'administration, parce qu'un professeur qui note trop sévèrement est finalement nuisible pour la réputation et les résultats attendus. Parce que je crois que nos auditrices et auditeurs ne s'en rendent peut-être pas bien compte, mais les établissements scolaires affichent des résultats. Il y a des classements qui sont faits au niveau des rectorats, on le sait bien. L'enseignement public est évalué, c'est le rôle des inspecteurs, etc. Alors, j'imagine bien aussi, je ne voudrais pas vous mettre dans l'embarras, puisque votre position d'enseignant et de fonctionnaire ne vous permet peut-être pas de vous exprimer comme ça librement devant un micro, mais à titre personnel, Gérald Leroy, est-ce que vous êtes à l'aise par rapport aux notes que vous mettez à vos élèves ?
Oui, tout à fait, moi je crois que...
Est-ce que vous notez, pardonnez-moi, en votre âme et conscience, est-ce que vous gonflez un peu la note en disant je relève un peu les notes les plus faibles et puis les bons élèves ont tout d'un coup de très bonnes notes, c'est-à-dire on relève un peu les basses et on relève aussi les bonnes notes.
Non, personnellement, je ne fais pas ça, j'ai une conscience professionnelle, je n'aime pas tricher ni mentir aux élèves, donc si l'élève a un niveau faible en anglais, il aura une note faible, et s'il a un niveau fort, il aura une bonne note en anglais. Moi, je me refuse de gonfler ou bien d'évaluer trop sévèrement un élève. Je crois qu'il faut être honnête. Il ne faut pas mentir aux gens. Et
Vous êtes attaché à la note
ou oui, est-ce moi que je vous suis.
Faites
moi
partie de ces enseignants, une minorité quand même en France, qui considèrent qu'on pourrait se passer de notes.
Non, moi je crois que le système des notes est excellent dans la mesure où on a précisément, on peut évaluer précisément le niveau d'un élève. En Allemagne, par exemple, on a un système de lettres, justement, A pour la meilleure note, B pour une note un peu inférieure. Et d'ailleurs, les Allemands reviennent de ce système-là. Hein. Donc moi, personnellement, je suis très favorable à la note. Et vous savez, nous, on nous a mis des mauvaises notes hein, quand on était élève, et on n'en est pas mort. Hein. On n'a pas été traumatisé par ces choses-là. Moi, je crois qu'il ne faut quand même pas exagérer.
J'avais entendu même que le fait de corriger une copie en rouge, que le rouge, c'est un psychologue, avait décrété, à juste titre peut-être, hein, je ne suis pas spécialiste, mais que la couleur rouge était traumatisante dans une copie d'élèves. Alors, ma foi, enseignant corrigé en violet. Hein, voilà. On va marquer, Gérald Leroy, une nouvelle pause. Vous aurez remarqué que ce soir, à bord de Wagon Libre, nous privilégions des titres anglais. Je vous rappelle que vous êtes calé sur la fréquence de Radion 90.5 dans Lyon. Peut-être nous écoutez-vous en direct via Internet aux quatre coins de l'Europe ou dans le monde, sur le www.radion.fr. Voici Kick the Bucket par Charlie Winston. Rendez-vous dans quelques minutes pour la suite de Wagon Libre avec notre invité Gérald Leroy et son tour de l'anglais en 365 jours.
If you say this is pop, be singing to a tune with a rhythm like this, would it be so unpopular for a singer like me to be bringing up the fact that we're all gonna go? Some people swear, they say they know where. For me it's a mystery, but whichever way you see it, you have to admit it and live it and live it. We all kick the bucket in the end all the girls kick the bucket in the end. And the boys kick the bucket in the end, yep, we all kick the bucket in the end, the end, the end, the end. Blew up my TV. It was numb in my brain to be thinking the same as a million other people, all feeling afraid of the same thing. But there's nothing to lose, cause we're all on a bike and we're cycling through, getting off on our injuries. But you gotta get back on it and live it to love it and live and love life. Cause we all keep the bucket in the end, all the girls keep the bucket in the end, and the boys keep the bucket in the end, my friend. Yep, we all keep the bucket in the end, the end, the end, the end, the end. This is not a sad song, celebration for all the red cells going.
contacter Radion 03 86 46 50 50. Radion.
Charlie Winston sur votre radio locale. Reprenons notre entretien avec notre invité, professeur certifié d'anglais, Gérald Leroy, pour parler de sa méthode d'apprentissage et de révision de l'anglais, le tour de l'anglais en 365 jours. Alors j'allais dire méthode d'apprentissage, méthode de révision. Gérald Leroy, quelle est l'astuce pédagogique de votre tour de l'anglais en 365 jours? Et deuxième question liée à la précédente, qu'est-ce que vous proposez de mieux et de plus par rapport aux autres méthodes d'anglais disponibles en librairie?
Alors, je crois que l'originalité du livre réside dans le fait, comme je l'ai déjà dit auparavant, que je mêle des explications grammaticales classiques avec l'anglais moderne. Et en fait, les leçons, donc pourquoi j'ai choisi ce titre, c'est une référence à Jules Verne, indirecte. Donc, on peut apprendre, à mon avis, en 365 jours, ce que le système scolaire, lui, vous propose en 7 années, sans obtenir, d'ailleurs, les résultats escomptés. Et l'originalité du livre réside dans le fait que le livre a été morcelé en 365 leçons. Et j'ai calibré ces leçons au millimètre près pour que celles-ci ne durent pas plus de 5 minutes, puisque, à l'heure actuelle, j'ai quand même pris acte du fait que les élèves travaillent beaucoup moins qu'avant, et que finalement, en faisant des leçons très légères, très claires, et en les faisant régulièrement, ils pourront acquérir un savoir qu'ils n'ont pas à l'heure actuelle.
Alors là encore, effort graduel, progressif, régulier.
Exactement.
Pour avoir cette envie de réussir, c'est incontestable.
Tout à fait. Et si vous voulez, je dirais que ce livre, c'est le grand retour de la traduction pédagogique. Je suis vraiment partisan de la traduction systématique des énoncés. Ce qui rend d'ailleurs la compréhension des phrases anglaises d'autant plus aisée. Et ce que j'ai fait d'ailleurs, à chaque leçon, ce n'est pas moi qui ai créé les énoncés, c'est des centaines, voire des milliers d'heures d'écoute à la BBC, où j'ai répertorié patiemment des centaines, des milliers de phrases, et qui sont parfaitement anglaises. D'ailleurs, j'ai fait réviser mon livre par trois personnes de langue anglaise, pour m'assurer de la qualité de l'anglais, et donc on aura affaire à un anglais moderne, mais qui est traduit systématiquement. Et je crois que c'est ça la grande force du livre. D'ailleurs, je reçois des appels de lycéens qui me téléphonent chez moi, je veux dire des gens que je ne connais pas forcément, et qui me disent « Monsieur, c'est extraordinaire votre méthode. Moi, je n'aime pas les livres, je ne fais pas d'anglais habituellement à travers les livres, mais quand j'ai votre livre entre les mains, c'est un plaisir de pouvoir faire une leçon par jour. »
Soyons bien clairs. Bien sûr, l'ambition de votre méthode, alors qu'est-ce qu'on doit dire? Méthode d'apprentissage de l'anglais?
Moi je crois qu'il y a les deux. C'est-à-dire j'ai tout repris depuis le début. Donc quelqu'un par exemple qui n'a jamais fait de l'anglais peut très bien commencer à la leçon numéro 1, reprendre tout à zéro et ensuite progresser tranquillement et arriver en une année à un niveau, un très bon niveau en anglais. Mon but, finalement, c'est d'amener l'apprenant à avoir des bases extrêmement solides en anglais. Parce que vous savez qu'une maison ne se construit pas sans fondation, il faut que les fondations soient extrêmement solides, et ensuite, nous allons ériger le reste. Et dans ce livre, bon, ça, le titre ne le fait pas paraître, mais il y a quand même 103 leçons d'approfondissement qui permettent d'aller beaucoup plus profond, justement, dans la langue. C'est-à-dire que c'est à la fois une méthode d'apprentissage et une méthode de consolidation.
Alors, le public ciblé, est-ce qu'un élève de 6e peut commencer à apprendre l'anglais avec votre tour de l'anglais en 365 jours?
Oui, tout à fait. Tout à fait, puisque...
Donc, peut-on dire que votre ouvrage, dont je répète le titre, hein, Le tour de l'anglais en 365 jours, est-ce qu'actuellement, ce projet pédagogique est véritablement novateur?
Oui, je pense qu'il est novateur. Puisque...
Est-ce que ce n'est pas aussi Gérald Leroy qui a trop confiance dans la capacité, vous avez utilisé le mot apprenant, qui me surprend d'ailleurs un peu, mais est-ce que ce n'est pas aussi idéal ou utopique?
Non, parce que si vous voulez, ce sont des cours extrêmement pratiques. J'ai donné des cours de remise à niveau au lycée de Clamecy. D'ailleurs, c'est le proviseur de l'époque qui m'avait demandé de le faire. Et sur 80 élèves, nous avons pu en sortir des dizaines du trou, justement, de l'ornière, en faisant des leçons extrêmement pratiques. Et donc, il ne s'agit nullement d'une pédagogie théorique, mais des cours, de cours pratiques qui sont extrêmement efficaces. Voilà. Et ce qui est différent, justement, de tous les livres qui sont proposés en librairie, c'est que, justement, la traduction des énoncés n'est pas là, et les élèves, finalement, ont beaucoup de mal à comprendre les énoncés en anglais.
Dernière pause musicale de notre wagon livre, restez en notre compagnie, voici Give Me That Love par Tom Frager. C'est d'ailleurs un Français d'origine qui chante en anglais. A tout de suite sur votre radio locale Radion avec notre invité Gérald Leroy.
À la volonté, allongé sur mon lit, je sais qu'il faut que je songe à me lever, mais moi j'écoute la pluie, et je regarde les gens se dépêcher, je t'attendrai toute la vie, s'il le fallait, that love, give me 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 that love, va par là. Dis pas si, fais pas ça, j'ai pas pu quand j'ai dû, pourtant je l'ai tenté mille fois. Tenter l'air de la ville, le quotidien qui défile, moi je respire quand se dessine enfin ma suite Caraïbe. Alors je prends l'instant qui passe et prends le temps de le voir qui trace sans jamais baisser les bras, jamais baisser les bras, jamais. Keep on walking, yeah, I keep on walking. Mais moi j'écoute la pluie et je regarde les gens se dépêcher, je t'attendrai toute la vie. S'il le fallait, s'il le fallait. That love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love. Dépêcher, je t'attendrai toute la vie. S'il le fallait, s'il le fallait. That love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love.
Radion. Radion.
Tom Frager et son Give Me That Love. Très dur de parler anglais quand on a un professeur d'anglais devant soi. C'est le cas de notre invité, Gérald Leroy. On est presque au terme de ce 84e numéro de Wagon Livre. Une émission que vous retrouverez d'ailleurs d'ici quelques jours disponible en téléchargement, on dit podcast en anglais, sur le site de Radion. Alors Gérald Leroy, revenons à votre tour de l'anglais en 365 jours, qui affiche donc un slogan accrocheur, ambitieux, vérifiable, semble-t-il, 7 années d'anglais, 7 années d'études en un seul livre, de la 6e à la terminale. Moi j'aimerais quand même, puisque vous portez cette méthode d'anglais, ça veut dire que vous la jugez bonne. Ça veut dire que d'autres méthodes ne portent pas leurs fruits.
Tout à fait. Moi, je crois qu'ici, il est question non pas de pédagogie, non pas de pédagogisme, il est question de bon sens. Je rappelle la fameuse phrase de M. Descartes dans le discours de la méthode. D'ailleurs, c'est la phrase d'ouverture. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et je crois qu'à l'heure actuelle, nombreux sont les parents qui se rendent compte que les méthodes directes, d'apprentissage direct, ne sont pas bonnes. On a vu les fruits qu'elles ont portés. Moi, je peux vous dire que j'ai vu ces fruits sur déjà une carrière de 25 ans. Ces méthodes, vraiment, ne sont pas bonnes du tout. Et nous voyons les résultats à l'heure actuelle qui sont en baisse, en très nette baisse. Le niveau des élèves est en baisse. Et moi, justement, j'ai voulu réagir par rapport à cette médiocrité ambiante, créer un ouvrage qui permette en très peu de temps à l'élève d'acquérir des bases solides. Je crois que tout est là. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Je crois que Erasme aussi disait dans une lettre à Martin d'Or en 1515 « S'il paraît quelqu'un qui puisse ou veuille enseigner des choses plus correctes, mon intention est d'être le premier à déchirer, à annuler mon travail et à souscrire à son jugement. » Et je crois qu'en tant qu'enseignant, nous devons rester dans une certaine humilité. Nous avons toujours des choses à apprendre, nous pouvons toujours progresser. Et moi, si vous voulez, j'ai fait cette méthode non pas par esprit de rébellion, non pas par esprit réactionnaire. C'est parce que je pense que cette méthode-là, c'est à mon avis la meilleure qui existe à l'heure actuelle pour enseigner les enfants, un retour au classicisme. Et donc, si quelqu'un me proposait une méthode qui était meilleure que la mienne, bien, je ferais ce que Erasme dit. Je déchirerais mon propre travail pour prendre cette méthode, puisque le but, finalement, ce n'est pas de prôner une idéologie, de tenir à tout prix à une idéologie. Le but que doit se fixer l'enseignant, c'est d'apprendre le mieux possible sa matière aux élèves. Et je crois que ça, c'est vraiment le nec plus ultra au niveau de l'enseignement.
À vous écouter, j'ai tout de même vraiment le sentiment que vous êtes pétri de l'humanisme dans son sens profond, dans sa valeur profonde, c'est-à-dire d'un retour finalement à la sagesse, au bon sens, l'attachement à la culture, et vous semblez vraiment nous dire qu'il ne faut pas balayer d'un revers de manche le passé au profit du triomphe d'un enseignement qu'on qualifierait de moderne et qui justement disqualifierait toutes les méthodes classiques qui ont fait leur preuve. Finalement, nous sommes passés par les méthodes classiques et on a un niveau, bon, moi peut-être honorable, vous excellentissime, c'est votre matière. Mais alors, autre point, Gérald Leroy, sur lequel je voudrais vous interpeller, est-ce que ce n'est pas difficile intellectuellement pour l'enseignant que vous êtes d'être contraint d'appliquer des méthodes que vous ne jugez pas pleinement satisfaisantes, parce que vous êtes finalement un fonctionnaire fonctionnant?
Oui, tout à fait, mais je crois que c'est avoir une conception assez limitée de l'enseignant que de vouloir lui imposer une manière de faire. Rien dans les textes nous dit qu'il y a un évangile de la pédagogie, qu'il y a une manière de faire. Je crois que l'enseignant doit adopter la méthode qui lui convient le mieux, qui convient
adapté
le mieux
au public,
voilà,
aussi d'élèves.
Tout à fait, et qui surtout fonctionne. Si par exemple, et il m'est déjà arrivé de le faire, si j'utilise un exercice ou une méthode qui ne fonctionne pas avec les élèves, mais je ne persévère pas dans cette manière de faire, je veux dire, c'est de la folie pure et simple de faire cela.
Est-ce qu'il y a un bon échange de méthodes de travail entre collègues dans une même discipline? Est-ce que les enseignants
Ça dépend, je crois que ça dépend des établissements. Il y a des enseignants qui ne pensent pas forcément comme moi, mais qui sont très ouverts, qui, eux, pratiquent les méthodes directes, donc on arrive quand même à bien s'entendre. Je crois qu'on peut... Moi, je n'incrimine pas les personnes. C'est surtout les méthodes, finalement, que j'incrimine, celles que je trouve mauvaises.
Et vous êtes un peu l'empêcheur de penser en rond, peut-être, au collège de Clamcy?
Oh non, je pense
dans
pas.
Dans l'équipe d'anglais?
Non, je pense pas, non.
Vous m'aviez confié, avant que nous ne préparions cette émission, que les manuels d'anglais de collège étaient richement illustrés. Vous trouvez que, finalement, on appuie actuellement un peu trop l'enseignement de l'anglais sur l'image, et vous préféreriez qu'on revienne justement à la phrase, peut-être même à des textes plus courts, mais qu'on revienne vraiment à l'écrit plutôt qu'au triomphe de l'image?
Tout à fait. Quand on voit par exemple un manuel de 6e qui contient 170 pages et que sur ces 170 pages nous avons 140 pages d'images et peut-être 30 pages de texte, je trouve que c'est aberrant. On n'apprend pas l'anglais à travers les images, on apprend à travers le texte, on apprend à travers la grammaire, on apprend à travers la phrase. Et je crois que la proportion est complètement inversée par rapport aux anciens manuels.
Oui, autre point, Gérald Leroy, que pensez-vous de la présensibilisation à l'anglais à l'école primaire ?
Alors, je crois que ce n'est pas une mauvaise idée, parce que je pense que ça peut donner un peu d'avance aux élèves en ce qui concerne l'anglais. Le seul problème, et la question que je pose, c'est est-ce que l'enseignement de l'anglais en primaire est fait par des gens qui maîtrisent bien l'anglais ? Ça, c'est ma question. Si tel est le cas, en effet, moi, je suis favorable pour que les enfants soient bien enseignés en anglais. Ça préparerait, ça défricherait un petit peu le terrain pour nous. Mais je me suis aperçu, justement, en vérifiant certains cahiers que m'amenaient les élèves, qu'il y avait de nombreuses fautes d'anglais, ce qui pose problème dans la mesure où on doit déjà démolir ce que l'élève a appris et qui sont des erreurs pour ensuite reconstruire. Alors oui, à l'enseignement de l'anglais en primaire, mais fait par des gens qui sont vraiment compétents dans ce domaine.
Si on vous dit que vous êtes réactionnaire dans votre méthode d'apprentissage ou de révision de l'anglais, vous êtes flatté ou vous êtes plutôt blessé ?
Alors moi, je suis flatté. Et pour conclure, je crois, cette émission, je vais vous citer une très belle fable de Richer qui s'appelle « Les deux potiers ». Certains potiers blâmaient l'ouvrage d'un potier son voisin et disaient que ses pots mal tournés ne seraient achetés que des seaux, qu'il n'en était encore qu'à son apprentissage. Les uns étaient trop grands, les autres trop petits. Celui-ci repartit. « Halte là, mon confrère, mes pots n'ont qu'un défaut. Mais qui doit vous déplaire ? C'est que de votre moule, ils ne sont pas sortis. » Et moi, si vous voulez, si on me critique sur mes méthodes, j'en suis extrêmement flatté, parce que ça veut dire pour moi qu'elles ont de la valeur. Et si vous voulez, même si elles ne sont pas sorties du moule de l'éducation nationale, moi je reste un homme libre, je reste un homme qui est sensible au progrès des élèves, et mon seul but dans l'enseignement, c'est d'apprendre le mieux possible l'anglais aux élèves. Ce n'est pas d'être le véhicule d'une idéologie ni d'une pédagogie qui ne marche pas.
Est-ce que le moral des enseignants est au bon fixe en ce début d'année scolaire 2012-2013 ? Personnellement, Gérald Leroy, votre morale d'enseignant est-il au beau fixe ?
Alors, je vous dirais oui et non. Oui, parce que j'aime ma matière et que je la cultive pratiquement tous les jours. Et donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'enseigne l'anglais. En revanche, je vous dirais aussi non, parce que je trouve que nous avons affaire à des classes de plus en plus surchargées, à des problèmes de discipline qui vont croissant, et le métier devient quand même de plus en plus difficile.
Gérald Leroy, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu à nos questions pour la noble cause de l'enseignement de l'anglais. Alors, on encouragera chacune et chacun d'entre vous à parfaire ses connaissances en anglais en se procurant votre méthode intitulée « Le tour de l'anglais en 365 jours », 7 années d'études en un seul livre de la 6e à la terminale. Alors, étant donné que ces livres sont publiés en auto-édition, pour se les procurer, alors les Nivernais ont la chance, en regardant un petit peu dans les rayons des grandes surfaces, ils auront le bonheur de découvrir la méthode de Gérald Leroy, qui est aussi l'auteur d'un précis de conjugaison. Ces deux supports pour consolider ses connaissances ou tout simplement pour maîtriser l'anglais à la perfection, eh bien vous pouvez en faire la demande par courriel auprès de notre invité. Je vous donne d'ailleurs, avec son accord, son adresse électronique, gérald.leroy58, alors Gérald, vous ne mettez pas l'accent, hein, gérald.leroy, L-E-R-O-Y 58, @orange.fr, ou alors vous prenez contact avec Gérald Leroy en le contactant sur son téléphone portable au 06 25 34 28 97 97. Je répète, 06 25 34 28 97. Ou alors vous reprenez contact avec Radion, on se fera un plaisir de vous redonner ses coordonnées, qui seront d'ailleurs mentionnés d'ici quelques jours sur le podcast de l'émission sur le site de Radion. Je voudrais, avant de nous séparer, merci Gérald Leroy, je voudrais aussi remercier monsieur et madame Barne de l'hôtel Avalon-Vauban à Avalon, puisqu'ils ont eu la gentillesse de nous accueillir pour l'enregistrement de l'émission que vous écoutez ce soir sur le 90.5. Encore un grand merci Gérald Leroy. Et puis, bonne continuation dans l'enseignement de l'anglais avec vos trois classes de 6e et vos deux classes de 3e au collège de Clamcy. Merci d'avoir été devant notre micro. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Puis aussi, une nouveauté, parce qu'on a eu une chanteuse, on a eu un professeur d'anglais, on n'a pas parlé de littérature, mais en parlant aussi d'apprentissage des langues, on a parlé bien évidemment aussi de culture et de transmission du savoir, et ça, on y est ici particulièrement attaché. Merci Gérald Leroy.
Merci de m'avoir invité.
Avant de nous séparer, je vous rappelle, toujours disponible en kiosque en attendant le prochain numéro, Pays de Bourgogne, numéro 233, avec un dossier richement illustré et particulièrement passionnant, consacré aux sources miraculeuses dans les quatre départements de la Bourgogne. Pays de Bourgogne, un trimestriel que l'on aime beaucoup, un trimestriel de qualité, revue qui existe depuis 1953. Je voudrais également mentionner une rencontre avec un écrivain, c'est à Auxerre, à la librairie Oblique. Cela se tiendra le jeudi 11 octobre à 19h30, donc à la librairie de Grégoire Courtois, une soirée de lecture et de discussion autour du jeune auteur de Ici, ça va. Rencontre donc avec Thomas Vineau le 11 octobre prochain à 19h30 à la librairie Oblique d'Auxerre. Et pour ma part, je vous retrouve mercredi 10 octobre prochain à 21h sur Radion avec un nouvel invité. Nous serons en compagnie de Gérard Calmette pour son livre intitulé Gionomadie, paru aux éditions de l'Armançon. Et puis le 17 octobre, nous serons avec Gérard Gauthier, le créateur des éditions de l'Armançon, parce que les éditions de l'Armançon fêtent leur 25e anniversaire. Plus de 300 ouvrages au catalogue. Ce sera l'occasion avec Gérard Gauthier de redécouvrir cette belle et grande maison d'édition régionale, de feuilleter avec lui l'album de son parcours entre Gallimard, De Noël, la publication de La Bibo d'Henri Vincenot jusqu'à la création en 1987 des éditions de l'Armançon installées à Précy-Soutil en Côte d'Or voisine. Rendez-vous donc mercredi prochain avec Gérard Calmette pour évoquer la vie et l'œuvre d'un romancier de la nature et de la paix, Jean Giono. Merci de votre fidélité, excellente soirée à l'écoute de Radion. Au revoir et à mercredi prochain.